Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Attention, certains des propos qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des personnes non averties.
È di Giulia Cecchettini il cadavere della giovane donna recuperato questa mattina dalle forze dell'ordine nel lago di Barci, a Pordenone.
11 novembre 2023. Giulia Cecchettini est tuée de 26 coups de couteau sur un parking d'une zone industrielle dans la banlieue de Padoue, en Italie. Elle a 22 ans et est étudiante en ingénierie, tout comme son meurtrier, qu'elle avait quitté quelques mois auparavant, ne tolérant plus le harcèlement, la jalousie et le chantage. Giulia Cecchettini est alors la 106e victime de féminicide de l'année en Italie, mais c'est comme si elle était la première. Car dans ce pays, qui a vu disparaître en 1981 seulement le concept de crime dit « d'honneur » avec ses circonstances atténuantes, et où les mouvements féministes rassemblent peu, une voix s'élève, forte, claire, inespérée. Celle d'Elena Cecchettini, la sœur de la victime.
Ces derniers jours, on a entendu parler de Turetta et beaucoup de personnes ont parlé de lui comme d'un monstre, un malade. Mais ce n'est pas un monstre. Parce que le monstre, c'est l'exception à la société. Le monstre, c'est celui qui sort des normes de ce qu'est notre société. Mais lui, c'est un fils sain de la société patriarcale, imprégné par la culture du viol. Le féminicide n'est pas un crime passionnel, mais un crime de pouvoir. Et pour Giulia, ne faites pas une minute de silence. Pour Giulia, brûlez tout.
Son mot d'ordre devient un cri de ralliement. Alors que le gouvernement réactionnaire de Giorgia Meloni décrète une minute de silence, les élèves partout en Italie refusent qu'on muselle leur colère et déclarent quant à eux une minute de bruit.
Per Giulia, per dare forza alla sorella Elena, che ha deciso di chiamare questo omicidio con il suo reale nome, femminicidio, omicidio di Stato.
Deux semaines plus tard, 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 500 000 personnes sont dans la rue, rien qu'à Rome, pour dénoncer le féminicide, ce crime systémique, mondial et multimillénaire. Dans son rapport remis chaque année à cette occasion, l'ONU recense 89 000 féminicides dans le monde, dont plus de la moitié perpétrés par un proche. C'est, bien sûr, sans compter les victimes qu'on ne voit pas, celles qui disparaissent, celles qu'on ne cherche pas. Sans compter les pays, nombreux, qui ne recensent pas ces meurtres, ou pire, qui les organisent et les dissimulent. Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes. Une série documentaire de Pauline Chanu, réalisée par Marie Placé. D'après l'ouvrage collectif « Féminicide, une histoire mondiale » dirigé par Christelle Tarot. Épisode 1, un crime de possession.
Alors, je suis Christelle Tarot, je suis historienne et féministe. Je suis l'autrice de « Féminicide, une histoire mondiale », donc il y a un livre paru aux éditions La Découverte en septembre 2022 et qui a pour ambition de traiter de la violence féminicidaire dans un contexte chronologique extrêmement large en réalité. Parce que à aucun moment je pouvais imaginer que je pourrais retrouver des féminicides de 2022, date de sortie du livre, l'origine de notre espèce. Et donc, je me suis rendu compte qu'on trouvait des crimes féminicidaires dès le néolithique, ça s'est totalement documenté maintenant, mais même en amont du néolithique, c'est-à-dire que même pour le paléolithique, où il n'y a pas de sociétés humaines, bien évidemment, il y a des groupes humains épars qui bougent beaucoup, on commence à discuter la question du féminicide. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, est-ce qu'on en trouve sur les 5 continents ? Et en fait, oui. Donc, l'idée, c'était d'avoir comme ça la possibilité de comprendre le caractère extrêmement systémique de ce crime, qui est sans doute l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien de l'histoire de l'humanité.
Bruxelles, 8 mars 1976. Tribunal international contre les crimes faits aux femmes.
Bonjour, je m'exprimerai en anglais. Je viens d'Afrique du Sud et peut-être que la plupart d'entre vous penseront que mon comportement est un peu paranoïaque. Mais croyez-moi, quand on vit dans ce pays, on se sent comme une petite, toute petite fourmi. Je suis une victime de viol et j'ai été agressée 2 fois. Mon histoire en tant que femme battue n'a rien d'exceptionnel. Je suis venue d'Israël et l'une des raisons pour lesquelles les féministes israéliennes souhaitent vivement venir, c'était pour se rendre compte par elles-mêmes et pour prouver à leurs concitoyens que la politique féministe n'est pas une politique nationaliste.
Le premier mot qui naît, en fait, c'est le mot de fémicide. Donc, il émerge dans le contexte du premier tribunal international des crimes contre les femmes à Bruxelles en 1976, organisé donc par des militantes féministes qui viennent de 40 pays différents, qui sont à peu près 2000, ce qui est quand même assez important, hein. Et dans ce tribunal, qui est un moment absolument extraordinaire de la prise de conscience des violences faites aux femmes, eh bien, voilà, on a une femme qui va émerger du lot, c'est Diana Russell. Diana Russell, c'est une militante, mais c'est aussi une sociologue. Et Diana Russell va, pour parler d'un crime très ancien, mais qui n'a jamais été nommé, pour la première fois, utiliser le terme de fémicide.
The following cases of femicide.
Nous avons recensé ces cas de féminicide dans les pages du San Francisco newspaper. Janet Taylor, 21 ans, étranglée et abandonnée sur le bord de la route dans le comté de San Mateo. Marika Sacco, 25 ans, poignardée, tailladée et abattue. Son corps a été dénudé jusqu'à la taille, enveloppé dans une couverture et fourré dans le coffre d'un appartement de San Francisco. Mary Robinson, 23 ans, poignardée 18 fois par son petit ami.
Et donc, en 76, elle qualifie le fémicide de manière très claire, très limpide et très spécifique. Elle dit: tous les meurtres de femmes ne sont pas des féminicides. Nous, ce que nous voulons éclairer, à travers la naissance de cet nouvel outil conceptuel, c'est une violence misogyne. Et elle précise que le fémicide, c'est donc le fait pour un homme de tuer une femme parce qu'elle est une femme, ce qui n'est pas perceptible ni compréhensible en dehors de la haine des femmes. Pour qu'il y ait fémicide, il faut qu'il y ait haine des femmes.
Aucun cortège ne les a accompagnés jusqu'à la tombe. Aucune protestation n'a secoué la ville. Aucun tract n'a été distribué. Aucun comité n'a été formé. Mais aujourd'hui, nous nous souvenons d'elles. Et demain, nous devrons agir pour mettre fin au féminicide.
Donc cette première définition très importante, elle est sème. Parce que quand les femmes quittent Bruxelles, elles partent avec les nouvelles idées. Et étonnamment, dans certains endroits, le concept est largement diffusé, dans d'autres pas. Par exemple, en France, le concept n'arrive pas. Donc ça prend pas ou très peu en Europe occidentale. Et si on prend un autre continent, qui est très important pour la suite de l'histoire, qui est le continent américain, ça prend assez mal aux États-Unis. Mais ça prend très bien dans une autre partie de la sphère, disons, américaine, qui est l'Amérique centrale et l'Amérique latine, mais aussi, marginalement, l'espace caribéen. Et puis, Au début des années 90, en Amérique centrale, dans un pays en particulier, le Mexique, et dans une ville spécifique du Mexique, Ciudad Juárez, explose un immense scandale de violence faite aux femmes qui est, au départ, totalement mésestimé par l'ensemble des acteurs du Mexique, État compris. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, en fait, sur l'ensemble de la zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis, qui est une zone extrêmement longue et extrêmement tendue, on voit des femmes disparaître. D'abord, isolément. Une femme disparaît au nord de la frontière, au sud de la frontière. On a du mal à percevoir le fait qu'il s'agit d'un processus systémique extrêmement important. Et donc, ça prend quand même un certain nombre de temps pour que les familles qui étaient isolées commencent à se réunir en collectif. Et elles commencent à tenter d'interpeller l'opinion publique.
Des mères qui cherchent leurs filles. Des villes entières couvertes de croix rouges. Des villes couvertes d'avis de disparition de jeunes filles. Des déserts d'os. Des lacs qui dévorent les femmes. Des femmes mortes qui surgissent des fleuves. Des fossés. Des sables du désert. Des corps jetés à la poubelle dans des sacs noirs. De la pâtée pour chiens. Des femmes jetables. Des femmes étranglées. Des femmes décapitées, des femmes démembrées, des femmes violées. Le Mexique est un énorme monstre qui dévore les femmes. Chienne de garde, Dalia de la Cerda.
Donc, une très grande femme politique et anthropologue mexicaine qui s'appelle Marcela Lagarde de los Ríos va dire... Ce qui se passe au Mexique en ce moment est exceptionnel. Et cette exceptionnalité nécessite que nous forgions de nouveaux outils pour l'appréhender. Elle dit « Le féminicide, c'est quatre choses. C'est toujours un crime collectif. C'est-à-dire que toute la société est engagée, en fait, dans le processus de mort. Donc, dans la nécropolitique. Donc, c'est un crime collectif. C'est un crime de masse, puisqu'on tue simultanément... de nombreuses femmes. On peut rappeler, par exemple, qu'au Mexique, aujourd'hui, 10 femmes, au moins 10 femmes sont mortes de la violence féminicidaire. Donc, elle dit, c'est un crime collectif, c'est un crime de masse, c'est un crime d'État. Ces meurtres ne sont possibles que parce que la société les tolère et les permet. Et que si la société les tolère et les permet, c'est parce que l'État les couvre. L'État marche sur les corps de femmes.
Mi abuela y mi madre son sobrevivientes de feminicidio.
Ma grand-mère et ma mère sont toutes les deux des survivantes de féminicide.
Yo me defino
Mon père a tenté de tuer ma mère et il était violent avec moi quand j'étais enfant. Mais avant ma naissance, ma mère a déjà vécu le féminicide de ma petite sœur, qui a été assassinée par un chauffeur de bus quand elle avait 4 ans. J'ai grandi avec cette histoire familiale. J'ai donc voulu que ça ne se reproduise pas. J'ai voulu protéger les miennes, les femmes de ma famille.
Et donc,
quand j'ai entendu parler en 2010 de l'organisation Red Mesas de Mujeres, je n'ai pas vu d'autre solution que de m'y engager.
Yadira Cortés Castillo, militante contre les féminicides à Ciudad Juárez.
Casos específicos y muy fuertes, pues está Campo Algodonero en el 2001.
En 2001, on a été confronté au cas particulièrement tragique de Campo Algodonero. On a retrouvé les corps de 8 adolescentes dans un terrain vague.
Este caso, los representantes de gobierno decían.
Les représentants du gouvernement ont dit que ces femmes qui avaient été tuées avaient leur part de responsabilité. qu'elles avaient obtenu ce qu'elles avaient cherché, entraînant dans les rues. Il tenait un discours totalement révoltant pour la famille des victimes. C'est là qu'on a décidé de porter le cas de Campo Algodonero devant la Cour de justice interaméricaine.
Evidenciando que el gobierno quiere culpabilizar a la víctima.
Nous avons prouvé que le gouvernement cherchait à culpabiliser les victimes et refusait de prendre ses responsabilités, qu'il n'avait rien fait pour les protéger et que l'État n'était pas capable de générer une société sûre pour les femmes. Dans le jugement qui a été rendu, il a été dit que toi, gouvernement mexicain, c'était bien ta responsabilité.
Il faut comprendre que la société mexicaine est sidérée par ce qui est en train de se passer. Et pourtant, cette société est quand même déjà très résiliente à la violence. Et en particulier sur cette zone. Parce que c'est une zone de capitalisme extrême, où se sont installés depuis les années 80 au moins des usines de sous-traitance qui sont essentiellement alimentées par des femmes pauvres issues des campagnes, et par des femmes pauvres issues des campagnes qui sont souvent aussi nées dans des communautés autochtones. C'est une zone de passage migratoire. Et par ailleurs, c'est une zone extrêmement dangereuse parce que depuis les années 60, les États-Unis font là une guerre contre la drogue qui n'a servi qu'à alimenter le trafic et durcir, en fait, de manière extrêmement puissante, les violences exercées par les cartels. Et elle a constitué, à contrario, des États dans l'État qui sont extrêmement problématiques. Les cartels de la drogue, sont les peut-être les premiers pourvoyeurs de violences féminicidaires.
Los tratantes buscan a jóvenes, adolescentes, vírgenes,
ces réseaux mafieux cherchent avant tout les adolescentes, des vierges pour les exploiter.
En diferentes estudios externaban que el cuerpo de mujer que es
plusieurs enquêtes ont montré que la durée de vie des femmes dans la prostitution est en moyenne de 2 ans, pas davantage.
Es que son tan perversos que hasta hacen una selección y buscan a las mujeres jóvenes.
Ces réseaux sont tellement pervers qu'ils font une sélection et cherchent des jeunes filles qui viennent de milieux sociaux défavorisés et de familles très nombreuses, avec 8 ou 9 enfants.
Y piensan porque incluso hay declaraciones de ellos que dicen.
Parce qu'ils pensent, et d'ailleurs eux-mêmes le disent, que pour ces familles qui ont 8 enfants, ça n'en fera qu'une de moins. Et de cette manière-là, les familles ne les chercheront même pas.
Ce qui est en train de se passer, c'est quand même la disparition de dizaines, puis de centaines, puis de milliers de femmes que la police ne retrouve pas, mais que les familles retrouvent. Elles trouvent les corps de femmes dans les décharges. On les a jetés comme des déchets dans les zones semi-désertiques qui sont à la périphérie des plus grandes enclaves urbaines. Et quand elles les retrouvent et qu'on commence à investiguer les restes, on s'aperçoit que ces femmes n'ont pas seulement été tuées, mais surtuées. Qu'est-ce qu'on entend par le surmeurtre, les anglophones appellent « overkill ». Et ça, c'est probablement le dernier point fondamental pour qualifier le féminicide. Dans le cas des femmes féminicidées à Ciudad Juárez, on s'aperçoit que la grande majorité de ces femmes, si ce n'est quasiment toutes les femmes, ont subi des violences hanté ou post-mortem. Elles ont toutes subi des violences sexuelles ou des viols. Elles ont toutes subi des mutilations de l'appareil sexuel ou reproductif. Elles ont toutes été plus ou moins démembrées. Et leur corps, en dehors de tout cela, a été profané de surcroît, le plus souvent par le feu ou l'acide. Donc la qualification du surmeurtre au sein de cette nécropolitique qu'est le féminicide, elle est fondamentale parce que elle qualifie l'attaque identitaire. Pour tuer quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Si tu fais tout ça, ça veut dire que tu dis autre chose, que tu envoies un autre message. Et le message que tu envoies, c'est que les femmes ne sont rien, premièrement, et deuxièmement, que leur corps doit servir par la spectacularisation de la mort à envoyer un message très concret, très direct à l'ensemble de la société.
Bueno, mi nombre es Rita Laura Segato. Soy antropóloga.
Je m'appelle Rita Laura Segato. Je suis anthropologue. J'habite à Tilcara, dans la cordillère des Andes, au nord-est de l'Argentine.
Que es mi país.
C'est mon territoire.
En realidad, yo vengo estudiando crímenes sexuales.
En réalité, j'étudie les crimes sexuels et les crimes de genre depuis très longtemps.
En 2002, y un grupo de mujeres
en 2002, un groupe de mères de Ciudad Juárez qui s'appelait Nuestras hijas de regreso a casa, nos filles de retour à la maison, m'ont invité à Ciudad Juárez. J'ai passé du temps, j'ai interviewé beaucoup de gens et j'ai alors compris quelque chose de très difficile à saisir et à rendre intelligible car c'était quelque chose de totalement incompréhensible à l'époque. En fait, les crimes commis à Ciudad Juárez sont des crimes de domination juridictionnelle. Ils expriment l'idée d'une seigneurie, d'une nouvelle féodalisation de ces territoires gigantesques. Ce que font ces groupes mafieux, ces organisations, car il ne s'agit jamais d'un seul homme, c'est qu'à travers ces crimes, ils expriment à la fois une toute-puissance, mais ils exhibent aussi leur totale impunité.
Féminicides íntimos, los domésticos,
bien sûr, les féminicides sont multiples. Ils peuvent être intimes ou domestiques, comme on dit. Dans ce cas, ils expriment la propriété d'un homme sur le corps de sa femme, de sa compagne. Mais il y a aussi les féminicides, comme ceux de Ciudad Juárez, qui n'exhibent pas la propriété d'un individu, qui exhibe la compétence d'une propriété juridictionnelle entre groupes mafieux.
O sea, ¿qué quiere decir la escritura en el cuerpo? Quiere decir que ahí se manda un mensaje.
Je parle de ces crimes comme d'une forme d'écriture sur le corps des femmes, car cela signifie que ces crimes envoient un message. Il s'agit non seulement d'un message de propriété sur ce corps, mais aussi d'un message de propriété sur un territoire envoyé via le corps d'une femme. Et 10 ans après mon enquête sur Ciudad Juárez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les nouvelles formes de guerre ». Je me suis appuyée sur mes expertises au Salvador, où j'ai collaboré avec des groupes de femmes, puis ensuite au Guatemala, au Honduras et en Colombie, mais pas seulement, je regarde aussi ce qui se passe au Moyen-Orient. Eh bien, j'ai montré qu'il y avait une féminisation de la guerre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles guerres se réalisent au travers du corps des femmes. Ce sont des guerres profanatrices, des guerres féminicidaires, que ce soit au Moyen-Orient ou en Amérique centrale. C'est une forme de guerre où l'ennemi est vaincu sur le corps des femmes en détruisant, en utilisant, en capturant, en violant ou en prostituant les femmes.
De quel côté de ta pensée rôde mieux la mort ? À ton avis, combien sommes-nous ? Jouis-tu quand tu nous fermes la bouche ? Nous sommes la guerre. Nous sommes la guerre et nous sommes le refuge. Le ciel ouvre la bouche pour que tu caches ta grenade. Dans la tente, nous palpitons comme des mines. En dessous et en dedans, nous sommes une mer de filles de cendres. Nous sommes des adolescentes armées traversant la frontière. Estilo, Dolores Dorantes.
Nosotras en el colectivo de mujeres formamos a las mujeres para que identifiquen las violencias.
Avec notre collectif de femmes, Nous formons d'autres femmes à identifier la violence et à fixer des limites. Des femmes qui vivent dans une situation de violence extrême.
Yadira Cortés Castillo.
Estamos seguras, salvamos las vidas de estas mujeres que fueron atendidas.
Et nous savons que nous avons sauvé la vie de nombreuses femmes.
Por ejemplo, es una mujer que ya le había cortado el cuello.
Par exemple, une femme avait été égorgée. Eh bien, nous sommes intervenus et l'avons emmenée à l'hôpital. Elle a eu la vie sauve.
Otra que estaba siendo perseguida por su agresor con un cuchillo para matarla.
Une autre était poursuivie par son agresseur qui avait un couteau pour la tuer. Elle nous a appelés. Nous sommes intervenus pour la sauver.
Está sana ella y salva, pero sí sabemos que a las mujeres que hemos formado, ellas han rescatado.
Mais nous savons aussi que les femmes que nous avons formées ont sauvé à leur tour de nombreuses personnes et permis d'arrêter la violence avant qu'elle n'atteigne le stade de féminicide.
Los espacios en los que intervenimos son en donde se han localizado cuerpos sin vida.
Nous agissons dans des lieux où nous avons retrouvé des corps de victimes. Nous nous réapproprions ces lieux pour envoyer à notre tour un message. Par exemple, nous avons commencé à installer des grandes croix roses sur lesquelles nous avons écrit « Ni una más » pour rendre visibles ces féminicides et montrer que l'État est responsable. Nous nous référons à la phrase de Susana Chavez, ça veut dire « pas une de plus », pas une victime de violence de plus, pas un féminicide de plus, pas une famille de plus qui doit vivre avec l'absence d'une femme, avec sa chambre vide, une chaise vacante à table. C'est très important pour nous de faire ça, parce que lorsqu'ils touchent à l'une d'entre nous, ils nous touchent toutes. Lorsque nous nous battons pour l'une d'entre elles, nous nous battons pour toutes. Toutes celles qui ont été tuées, même la poétesse Susana Chavez, elle aurait pu être moi ou n'importe laquelle de mes amies. Elle a été assassinée en 2013 par trois hommes qui l'ont violée, asphyxiée et lui ont coupé la main avec laquelle elle écrivait. Là encore, nous voyons une de plus qui a été traitée comme quelque chose qui ne valait rien, comme si sa vie, son corps n'importait pas. Comme s'ils savaient aussi que l'on ne ferait rien contre eux, qu'ils ne seraient pas poursuivis, qu'il ne se passerait rien du tout. Je vais vous lire un de ses poèmes.
Sangre nuestra.
Notre sang.
Sangre mía, de alba, de luna partida, del silencio, de roca muerta, de mujer en cama, saltando al vacío, abierta a la locura, sangre clara y definida, fértil y semilla. Sangre incomprensible gira, sangre liberación de sí misma, sangre río de mis cantos, mar de mis abismos. Sangre instante donde nazco adolorida, nutrida de mi última presencia. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más!
Le fémicide et le féminicide ne sont jamais des actes spontanés. C'est préparé.
Christelle Tarot.
Comme les génocides, ils font l'objet d'une très longue préparation. Et le meurtre n'est jamais le premier acte de violence d'un homme. Et donc, pour comprendre en fait les féminicides, il faut saisir en fait le spectre de violence qui autorise des hommes à tuer. Et pendant très longtemps, le meurtre féminicidaire, en particulier quand il était lié à l'honneur, ne donnait lieu finalement à des condamnations que très médiocres, voire pas de condamnation du tout. Donc ça a acclimaté le droit du propriétaire. Et c'est pourquoi j'ai décidé de forger cet outil de continuum féminicidaire. Le continuum féminicidaire permet d'éclairer toutes les violences faites aux femmes de la naissance à la mort, et parfois même avant la naissance, puisque le continuum féminicidaire introduit la nécessité d'analyser et de documenter les féticides et les infanticides de masse que connaissent le continent asiatique depuis les années 70, donc plutôt féticides en Inde. Et nous parlons évidemment là d'un féticide de masse qui se couple à des politiques de mort, à des nécropolitiques de mort dans d'autres États, comme par exemple la Chine, avec sa politique de l'enfant unique, où là, on n'est pas confronté à des féticides de masse, mais à des infanticides de masse, et où là, clairement, l'objectif de l'État, c'est de tuer les petites filles, des petites filles qui sont nées, et qu'on tue par centaines de milliers. Ce qui fait que, depuis les années 70, le continent asiatique a un manque de femmes de plus de 200 millions.
Alors, je suis Céline Bardet, je suis juriste et enquêtrice criminelle internationale. Je travaille depuis 20 ans sur les crimes de guerre. Et en 2014, j'ai fondé l'ONG We Are Not Weapons of War, nous ne sommes pas des armes de guerre, qui travaille spécifiquement sur les violences sexuelles liées aux conflits et aux zones de crise. Je travaille sur plein de terrains complètement différents, c'est-à-dire que je travaille sur le continent africain, je travaille au Moyen-Orient, je travaille au Pakistan. Et en fait, la plupart du temps, les victimes, les premières phrases qu'elles ont, quand elles ont subi ces violences sexuelles, elles disent « j'étais morte ». Par définition, le viol ou la violence sexuelle, c'est une prise de pouvoir d'une personne sur l'autre. C'est ça, en fait, le viol de guerre. C'est un moment où le corps des femmes devient un champ de bataille et il y a un acte de propriété qui va être fait par l'auteur d'aller prendre le pouvoir sur le corps de cette femme, et qu'il ne faut pas oublier non plus que souvent quand ils font ça, c'est aussi une manière de prendre le pouvoir sur tout le reste, c'est-à-dire sur toute la société et la communauté, c'est dire « moi j'ai pris le pouvoir sur le corps de votre femme », symboliquement. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, si je rencontre une victime, qu'elle me raconte comment elle a été violée, je peux identifier la milice qui a commis ce viol. C'est-à-dire que ce sont des milices, à un moment, qui ont mis en place des modes opératoires de viol avec des spécificités et qui permet de les identifier. On sait que les mutilations vont appartenir à une certaine forme de milice, que l'utilisation d'outils dans les vagins appartiennent à une certaine forme de milice, etc. Donc c'est pour dire combien, encore une fois, on est bien au-delà de... Je sais pas comment dire, moi. On est bien de... Parfois, ça me dérange le mot violence sexuelle, en fait, pour vous dire. Ça me dérange parce que, en fait, je sais même pas comment on peut parler de ça. Il faut qu'on parle d'une extrême violence, quoi. On est dans des actes de barbarie à caractère sexuel. C'est là-dedans qu'on est, avec des violences, mais qu'on peut même pas imaginer.
Il y a un recensement des pays qui sont les plus dangereux pour les femmes. L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Mondiale de la Santé font le palmarès des pays les plus dangereux. Le pays le plus dangereux, selon ces organisations, serait l'Inde. L'Afghanistan fait partie de ces pays les plus dangereux. On s'en doute, notamment l'Afghanistan sous le règne des talibans. Si on prend déjà ces deux pays... On a un pays asiatique à majorité hindouiste, et puis en Afghanistan, autre pays asiatique, plutôt là des musulmans. Mais dans ce recensement, on oublie souvent de préciser que le 10e pays le plus dangereux au monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Pays qui, incontestablement, n'a a priori rien à voir avec l'islam. Et où le fondamentalisme est plutôt incarné par des mouvements protestants évangéliques extrêmement durs. On a là toujours une colère à géométrie variable. Enfin voilà.
Il y a ce tabou encore hyper fort, je trouve, autour des violences sexuelles.
Céline Bardet.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas en parler, c'est difficile d'en parler. Si on en parle, comment on choque? Moi, souvent, je dis, on me pose des questions, je dis, c'est quoi la violence sexuelle dans les conflits? C'est des bouteilles dans le vagin. Et ce n'est pas facile de dire ça. Et quand je dis ça, mon idée, ce n'est pas de choquer les gens qui m'entendent. C'est de dire, c'est ça, une violence sexuelle, par exemple. C'est ça. Il y a un tabou qui est encore très fort. On a du mal dans la société à parler de ça. Donc, on reste dans l'équation où, un, ça concerne des femmes. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et deux, en plus, violence sexuelle, ah là là, c'est pas trop bien d'en parler. On se sent pas trop bien quand on en parle. Donc, on met ça sous le tapis et c'est tout. Et c'est terminé.
Si vous cueillez une fleur, si vous volez un sac à main, si vous possédez une femme, si vous pillez un autre pot, ravagez un pays ou occupez une ville, vous êtes un preneur. Vous prenez. En grec ancien, on utilise le verbe arpazo, qui donne en latin rapio, rapere, raptus sum, et qui en anglais donne rapture, c'est-à-dire rapt, enlèvement, et rape, viol. Des mots tachés du très jeune sang des jeunes filles et du sang millénaire des cités et des villes, de l'hystérie de la fin du monde. Parfois, je pense que le langage devrait se couvrir les yeux quand il parle. Norma Jean Baker de Troyes, Anne Carson.
Je m'appelle Clémentine. J'ai 36 ans, bientôt 37, dans un mois. J'ai un petit garçon de 12 ans, donc avec mon agresseur, et je vis sur Liège. Mais en fait, au départ, déjà, monsieur était déjà un peu plus âgé que moi, de 12 ans, plus âgé que moi. Et donc, quand il a commencé à me faire la cour, premièrement, ben, c'était un refus parce que ce n'était pas mon style d'homme. Mais donc, la personne qui nous a présenté avait tellement vanté les atouts de monsieur. Monsieur s'est tellement vanté que quelques temps après, il a commencé à m'écrire. Pour vous dire même, j'avais oublié qui il était. Et j'ai accepté quand même d'aller à un deuxième rendez-vous pour pouvoir voir qui c'était de nouveau. Et voilà. Si je me rappelle bien, j'avais 23, 24 ans quand je l'ai rencontré. Autant que jeune fille, j'aurais tendance à dire que c'était ma best vie, en quelque sorte. À l'époque, j'étais aide péricultrice, donc j'ai travaillé avec les enfants quand j'ai rencontré monsieur. En même temps, j'aimais sortir, boîte de nuit, boire, fumer, etc. Dans cette histoire, si je peux dire quelque chose, c'est mon agresseur, mais c'est aussi la personne que je l'ai plus aimée, en fait. Lorsque je l'ai rencontré en 2009, on a commencé à faire connaissance, et de plus en plus, je commençais à m'attacher à lui. Et avec monsieur... Donc de 2009 à 2010, on n'était que tous les deux. Et au fur et à mesure, c'était telle, je n'ai pas envie de la voir avec toi parce qu'elle fait ceci, elle fait cela, etc., etc. Bah écoute, tu sors avec telle, pourquoi? Parce que regarde, quand telle, elle sort, on dit d'elle qu'elle est comme ça. C'est comme si toi aussi, tu étais comme ça. Et petit à petit, ce n'était même plus à moi qu'il interdisait d'aller vers mes amis, mais à mes amis de venir vers moi. Par les insultes, par les agressions à mes amis. Et il y a eu, après une année, c'était vraiment l'ultimatum. C'est soit tes amis ou moi. Quand cet ultimatum s'est posé, je me rends compte que je suis enceinte. Et comme j'avais une philosophie de me dire, bah, écoute, si un jour tu tombes enceinte et que tu es en couple, bah, c'est avec cette personne que tu vas rester, c'est avec cette personne que tu feras toutes tes enfants, c'est ta vie, quoi. Et on était déjà dans la même maison, on vivait dans la même maison. Et alors j'ai fait le choix de virer toutes les amies et de rester avec monsieur. Il y a eu un moment donné où malgré que l'enfant était né, les agressions, ce n'était plus avec mes amis, mais c'était vis-à-vis de moi-même. Des fois, j'ai passé des nuits blanches parce que monsieur, pour un oui, pour un non, devait s'énerver. Et vu qu'il sait que je travaillais le lendemain, il pouvait mettre de la musique pour m'empêcher de dormir. Claquer les portes, entrer dans la chambre, allumer la lumière, crier et puis repartir. Et c'était une boucle en fait. C'était la plupart du temps c'était ça. Parce que il a vraiment commencé par la violence psychologique, verbale. Et vers la fin c'est devenu physique, vis-à-vis de moi. Et je me rappelle, le 15, c'était le jour de mon anniversaire. Il a décidé de me faire une surprise, bizarrement. parce que d'habitude, il n'en fait pas. Il invite certaines amies à nous. Et donc, anniversaire surprise, tout se passe bien. Mais au contraire, le lendemain, ben voilà, il y a eu l'anniversaire, je suis fatiguée, j'ai pas eu le temps d'arranger. Et il s'est levé le matin, il a pété une crise, il a commencé à frapper, il a commencé à injurier. Et pour moi, c'était trop. À ma grande surprise, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais rentrée.
On part dans le débat public français et dans le discours médiatique du crime passionnel. Et du coup, on est passé de cette idée de la compréhension du féminicide conjugal comme crime passionnel à celle de crime de possession. Voilà, c'est des actes de propriétaires en fait, qui veulent récupérer le contrôle sur le corps de l'autre qu'ils objectifient.
Lorraine Descartes, journaliste, autrice de « Nos absentes », à l'origine des féminicides.
C'est un système en fait qui piège les victimes. C'est des femmes qui me racontent un quotidien où elles étaient piégées, par exemple avec aussi des stratégies de micro-régulation de leur quotidien. Il y a des histoires dans Nos absentes où les femmes, elles avaient le téléchargement de dispositifs de géolocalisation sur les deux téléphones des deux conjoints. Ça, c'est assez fréquent, mais on sait très bien qu'en fait, il y en a un qui l'utilise pour contrôler l'autre et l'autre qui l'utilise pour rassurer le conjoint agresseur. Et ça, en fait, c'est des choses, quand on n'est pas familier du vocabulaire des violences, du langage de la violence, qu'on n'arrive pas, en fait, à détecter, on ne les comprend pas, en fait, on n'est pas sur la même fréquence. Et pour ça, il faut être formé, c'est pour ça qu'il faut être formé aux violences et aussi à la mécanique du déni de ces hommes.
Monsieur savait là où je vivais. Monsieur était déjà venu rendre visite à l'enfant là où je vivais. Et donc, le lundi, je prépare mon fils pour aller le déposer à l'école. À ma grande surprise, je sors... Monsieur était caché dans la cave, en fait. Il s'était caché dans la cave. Qui l'a ouvert la porte d'entrée, je ne sais pas. On vivait à l'époque au rez-de-chaussée. J'ouvre la porte et à ma grande surprise, c'est monsieur qui est là devant moi. Les yeux, tu t'es... Je sais même pas comment définir ça parce que ça a été tellement vite. J'ouvre la porte et je reçois le premier rafale de coups de couteau. Il rentre, il ferme la porte à clé. Donc on commence à se disputer le couteau avec lui. Et dans ma tête, à moi, je sais que s'il y a quelque chose qui doit me tuer, effectivement, c'est le couteau. Je n'avais aucune autre pensée que de lui arracher ce couteau et d'être en possession. Et durant cette bagarre, le couteau lui échappe des mains et tombe. Donc le couteau change de pièce. Donc tous les deux, on se met à courir. Le premier a récupéré le couteau. Et c'est moi qui ai récupéré le couteau. Mais malheureusement, étant un homme et je suis une femme, il a pris le dessus, il m'a plaqué au sol. Le dos couché au sol. Vu que mon obsession était le couteau et que c'est moi qui avais le couteau, je me suis mise aussi à lui poignarder sur la cuisse gauche en espérant qu'il va lâcher prise, qu'il va sentir la douleur et que ça va lui empêcher d'aller plus loin. Je n'ai pas entendu un cri, rien du tout. Et le temps que je suis en train de poignarder monsieur avait une veste. Et dans sa veste, à lui, il avait une petite bouteille d'eau, les petites bouteilles 50 centilitres qu'il avait remplies d'essence et qu'il avait ramenées. Et du fait que j'étais au sol, il a ouvert la bouteille et il a versé sur moi. Mais avec le sang qui coulait déjà dès le départ, vu qu'il m'avait tailladé, avec la pression, l'adrénaline, je ne me suis même pas rendu compte, je n'ai pas senti l'odeur de l'essence. Et à ce moment-là, je lui dis, mais regarde, il y a l'enfant qui nous regarde. Au moins pour l'enfant, il y a l'enfant qui nous regarde. Et si vous remarquez, c'est plus mon côté gauche qui est brûlé. Parce qu'à ce moment-là, j'avais le regard tourné vers mon fils, qui se trouvait à ma droite. Et d'un coup, j'entends, il me dit... Lorsque tu m'as quitté, tu n'as pas vu que le gamin était là. Et c'est là que je vois rouge parce qu'il a craqué, je ne sais pas si c'est un briquet ou une allumette sur mon visage. Et tout est allé vite. Lui, il s'est levé, il est parti et il a refermé la porte. Je me suis mise à brûler. La maison s'est mise à brûler et mon fils était dedans. La seule pensée que j'ai eue, c'était de me lever et d'aller vers la salle de bain. Je suis montée dans la baignoire, j'ai pris le pommeau de douche, et je ne sais pas, en tout cas, à la maison là où on vivait à l'époque, il y avait un grand miroir juste en face de la douche. Je prends le pommeau de douche, Je m'asperge d'eau et je me retourne, mais le choc, parce que mon visage avait fondu. Mes mains avec, mais à ce moment-là, je ne me rendais même pas compte que mes mains aussi étaient touchées. Une fois que je me suis éteint le feu, le réflexe était « et mon fils alors ?» Et mon fils, il était tellement tétanisé qu'il n'avait pas bougé. Il est resté, les flammes tout autour, et il est resté en train de regarder dans le vide. J'ai ouvert la porte et la police était là. La première chose que j'ai eue, et c'est dommage, même, c'est vrai, c'est pas courant qu'on voit une femme qui a le visage brûlé. J'ai eu toutes les policiers qui m'ont regardé. Il y a une femme qui est brûlée. Et là, c'est le trou noir pour moi. C'est vraiment à ce moment-là que je suis morte parce que, une fois dans l'ambulance, on a essayé de faire plusieurs réanimations, si je ne me trompe pas, je pense 2 ou 3. Arrivée à l'hôpital, vu qu'on n'a pas pu me récupérer dans l'ambulance, on m'a mis dans la salle de défunt le temps d'attendre. Ma maman est mise au courant et ma maman est arrivée de Bruxelles à Liège. Et c'est à ce moment-là qu'on demande à ma maman de venir m'identifier. Ma maman me dit qu'elle est venue et elle m'a trouvée dans un sac. Vous voyez les sacs noirs qu'on ferme. Parce qu'elle dit quand elle est arrivée, on a dû ouvrir le sac pour qu'elle puisse s'identifier. On lui présente donc sa fameuse fille, mais je viens d'être brûlée, donc ma tête, elle a triplé. Mon visage est devenu blanc. Et donc on lui demande, écoutez madame, est-ce que c'est votre fille ? Mais autant que maman, je comprends ce qui s'est passé à ce moment-là. Elle dit non, c'est pas ma fille. Je ne la reconnais pas. Mais elle se dit, bah, écoutez, s'il y a moyen, j'aimerais bien voir sa cheville. Parce que sur ma cheville, j'ai un petit tatouage. Et j'ai une particulière, j'ai l'orteil d'un aigle, en quelque sorte. Parce que c'est vraiment crochu, c'est comme ça qu'on appelle avec ma maman. Et une fois qu'elle voit ça, elle s'écroule et elle dit oui, effectivement, c'est ma fille. Mais je vous demanderai de me la laisser encore un tout petit peu, parce que de salle de défunt, il faut qu'on me prépare pour me... Oui. Donc elle a commencé à m'appeler, à me toucher, à me caresser, pour revenir à moi. Genre, elle me faisait des petits massages, parce que dans sa tête, elle se dit, elle va se réveiller. Elle m'a appelé, et elle m'a appelé. On a un petit surnom qu'on m'appelle chez nous, et c'est Tantine. Tantine, c'est maman. Tantine, c'est maman, il faut te réveiller. Tantine, c'est maman. C'est là que je suis... Je me suis mise pas vraiment à bouger parce que je ne pouvais pas. Mais j'ai commencé à faire battre de l'œil parce que mon visage était gonflé. Et là, donc, elle appelle les infirmiers pour dire, ben justement, venez constater, elle est là, elle bouge. Et c'est là que le personnel du CHU sont venus, m'ont remis, genre, ils ont recommencé la réanimation. À ce moment-là, on me met dans le coma et je reste dans le coma pendant 3 jours. Et pendant ce temps, mon agresseur est en cavale pendant 3 jours aussi.
Un auteur de violences conjugales, en fait, c'est pas marqué sur son visage. C'est monsieur tout le monde, en fait. C'est des violences qui sont systémiques. Il y a 213 000 femmes victimes qui se déclarent victimes de violences conjugales physiques et ou sexuelles chaque année en France.
Lorraine Descartes.
Donc, il y a aussi énormément d'hommes auteurs de violences conjugales. Et en fait... Il y a quand même cette idée que on ferme et on arrête en fait souvent le discours sur la violence en disant c'est l'autre, c'est le pauvre, c'est les cas sociaux, c'est les marginaux ou c'est l'immigré. Les auteurs de violences conjugales sont très souvent en fait, encore plus les féminicidaires, sont associés à la figure du monstre. C'est comme de les sortir du champ de l'humanité et c'est aussi un petit peu nous en tant que société de se laver les mains, de dire c'est des monstres en fait. Si c'est des monstres, c'est pas le produit de notre société. J'ai remarqué que plus on monte dans la hiérarchie sociale, à travers les catégories de... Enfin, CSP, catégories socio-professionnelles, moins il y a de dépôts de plaintes. Les victimes des catégories plutôt populaires ont plus le réflexe d'aller porter plainte à la police, de chercher la protection des autorités. Et plus on monte dans la hiérarchie sociale, moins il y a cette tendance, en fait, à dénoncer aux autorités les violences. Ça, c'est quand même très paradoxal. J'étais très étonnée quand j'ai découvert ce phénomène. qui, en fait, laisse penser qu'il y a une forme d'impunité qui est encore plus présente. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus l'impunité et le silence sur les violences, elle est forte.
Les interventions de mon parcours, j'en ai eu tellement, parce que j'ai eu plusieurs greffes au niveau des mains, au moins deux ou trois fois au niveau des mains, des deux mains. J'ai eu l'ouverture de la paume de main gauche, l'écartement des doigts, parce que tout était collé. Si vous voyez, j'ai plein de brides, tout était collé. J'ai eu des greffes au niveau du visage. J'en ai eu un, deux, trois, quatre au niveau du cou, parce que j'ai été égorgée aussi. Donc on a dû greffer aussi. Parce qu'au départ, on m'avait dit, ben, pour récupérer les cordes vocales, ça allait être compliqué. La preuve en est, je parle, je n'ai pas assez de voix parce que mes cordes vocales ne bougent pas. On pensait que je n'allais pas avoir de la vue au niveau de l'œil gauche. Louis est touché. Et pour l'instant, justement, je suis encore en phase de reconstruction. Après tout ce que j'ai vécu, et avec la lutte que je lutte aujourd'hui, mon objectif, et je le sais, c'est dans ma tête que je ne retrouverai pas le visage d'avant, parce que c'est une nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Et ce visage aussi me permet justement de dire à d'autres femmes qui passent par ces étapes-là qu'on survit, on peut survivre. Et même avec nos cicatrices, on vit. Et lorsque je montre ces stigmates à d'autres personnes, je pense que ça peut leur donner encore plus de force. Avant, vous savez, à l'époque, la jeune fille que j'étais n'aurait jamais, jamais pu imaginer une seconde de vivre avec un gros handicap. Et pas n'importe lequel. Parce que ça touche mon visage, ça touche à ma fierté, ça touche à ma féminité. Et aujourd'hui, quand je me vois à l'extérieur, vous pouvez constater, maquillée, habillée, coiffée, pour moi, il y a plus que survivre. Et tous les jours, avec le regard des gens, des fois les critiques des gens, je passe outre. Parce que pour moi, je suis plus forte. Si je suis passée des flammes à aujourd'hui, c'est ça pour moi être une survivante.
Écoutez. Ce soir, vraiment, je ralentis l'avancée de la mort à l'intérieur de moi. Et je ne vais pas inventorier les viols et les bûchers, les violences et les sourires et les brouilles et les colères et toutes les autres merdes que vous avez déposées sur les femmes à travers notre histoire. Comme j'aimerais que les larmes de femmes qui roulent en silence sur mon visage en cet instant soient chacune une balle. Pour tuer ce qui, dans les hommes, a bâti cet empire. Coloniser mon corps même. Puis nommer la colonie monstre. Jamais un peuple colonisé n'a vu ses membres aussi isolés les unes des autres et aussi longtemps que les femmes. Jamais aucun n'a été saisi par la compassion pour l'oppresseur qui chaque nuit respire sur l'oreiller d'à côté. Puissions-nous comprendre que rien ne peut nous arrêter. Puissais-je apprendre comment survivre jusqu'à ce que mon rôle soit terminé. Puissais-je réaliser que je suis une monstre. Je suis une monstre. Je suis une monstre. Je suis une monstre. Et j'en suis fière. Monster, Robin Morgan.
Alors, en fait, la matrice de cette histoire, c'est la femme colonie.
Crystal Tarot.
Le ventre des femmes devient un espace en soi. Les femmes sont des territoires. Des territoires qu'on échange, qu'on domine. Et donc, la possession des femmes est un élément structurant des patriarcats.
Nous parlons d'un génocide, nous parlons d'un féminicide, car d'une certaine façon, c'est une guerre livrée contre les femmes.
Silvia Federici, universitaire américaine, autrice notamment de Caliban et la sorcière.
And until now,
Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui encore, avec l'émergence des nouvelles chasses aux sorcières. Dans beaucoup de pays d'Afrique, au Ghana, au Nigeria, en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Tanzanie, eh bien au moins 30 000 femmes ont été tuées ces 20 dernières années après avoir été accusées de sorcellerie. Mais il y en a aussi beaucoup en Inde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans la plupart de ces cas, il semble y avoir une connexion entre ces exécutions et la question de la terre. L'expansion du capitalisme mène à un processus massif de privatisation des terres. Les terres sont devenues si rares. Les conflits autour de la terre explosent. Et les femmes en sont ainsi les premières victimes. Vous savez, les bûchers, le feu, c'est l'idée d'une destruction totale. C'est l'idée que les sorcières sont une réalité tellement horrible qu'elles doivent être éradiquées, annihilées. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, les hommes utilisent le feu pour tuer leurs compagnes. Le feu ne laisse aucune trace, ne laisse pas de corps, de preuves. Derrière la haine, il y a l'idée d'une destruction totale.
En sillonnant les réseaux sociaux, j'ai fait certaines recherches. Mais c'est vraiment l'histoire d'une dame ici en Belgique, Patricia, qui a été vitriolée. Quand je suis tombée sur son reportage à elle, je me dis, tiens, apparemment je ne suis pas la seule qui vit ça. Et dans son reportage à elle, justement, en bas, on avait mis féminicide. Et c'est là que ça m'a poussée à aller faire des recherches. Et je me suis rendu compte, justement, c'est que moi aussi j'ai subi. C'est la même chose que Patricia a subi et que d'autres femmes sont en train de subir. Mais je suis peut-être pas encore arrivée vraiment à bien rassembler mes puzzles. Je suis toujours en train de rassembler pour savoir un peu. À un moment donné, je dirais, je me suis fait agresser. À un moment donné, je parlerai de féminicide.
Merci à Christelle Tarot, Yadira Cortés-Castillo, Rita Laura Segato, Céline Bardet, Lorraine Descartes, Clémentine, Sylvia Federici, Mylène Le Goff de l'Université des Femmes de Belgique et Pierre-Guillaume Prigent. Conseillère scientifique, Christelle Tarot, historienne, directrice de l'ouvrage collectif « Féminicide, une histoire mondiale » paru à la Découverte en 2022. Lecture, Valérie Dashwood. Avec les voix d'Irma Vélez, Alia Tovin, Marie Durieux, Clément Salazar et Hilaria Castagna. Prise de son, Andreas Jaffré et Adèle Cargar. Collaboration, Hilaria Castagna. Archivina, Mylène Touché. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes. Épisode 1, un crime de possession. Un documentaire de Pauline Chanu, réalisé par Marie Placé. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.